Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Médias Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre bulletin de nouvelles francophones pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest et un peu partout dans le Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine.
We have been invited to go to the Vatican to seek apology.
Les dirigeants autochtones, Inuits et Métis du Canada se rendront au Vatican du 17 au 20 décembre sur invitation du pape François afin d'y exiger des excuses officielles au nom des victimes des pensionnats autochtones et de leurs familles. Le chef national de la Nation d'aînés, Norman Yakeleya, en a fait l'annonce le 14 octobre. Ce dernier prendra part à la délégation qui profitera également de cette visite pour inviter le pape en terre autochtone afin d'y formuler des excuses au nom de l'Église romaine catholique. Il y a près de 20 ans qu'un souverain pontife n'a pas mis les pieds au Canada. En plus des dirigeants autochtones, certaines victimes des pensionnats indiens pourraient également faire partie de la délégation, dont la composition reste à élaborer.
As a former residential school survivor, never had I ever thought that we would come this far to have His Holiness invite former residential school survivors to Rome and listen to us.
Étant moi-même survivant des pensionnats indiens, je n'ai jamais pensé que ceci irait aussi loin, a indiqué le chef Yakeleya. Je n'aurais jamais cru que Sa Sainteté inviterait un jour les survivants des pensionnats indiens à Rome pour nous écouter et entendre ce que nous exigeons de l'Église catholique. Bien qu'il se dise heureux de cette invitation, M. Yakeleya a souligné qu'il y a maintenant 6 ans que l'Assemblée des Premières Nations réclame une visite du pape au pays.
We have been working on this since the TRC recommendations for 6 long years. We've been patient in asking the Roman Catholic Church to come to Canada to make this apology.
Nous travaillons à cette invitation depuis le dévoilement des recommandations entourant la Commission Vérité et Réconciliation, indique Norman Yakeleya. Nous avons été patients. Il y a maintenant 6 longues années que nous demandons à l'Église catholique romaine de venir au Canada pour y présenter ses excuses. Les dirigeants de l'Assemblée des Premières Nations en seraient actuellement à recueillir les propos des membres des collectivités autochtones afin de préparer le message qui sera livré au Vatican dans 2 mois. Le chef national d'aînés aura lui-même l'occasion de discuter avec le pape François.
You know, I would want to say that what happened to me and my family, that the Roman Catholic Church did wrong, and asking for his apology to my mother, my grandmothers, grandfathers, the way they treated us, the way they harmed us, and that we were children of God.
Personnellement, j'aimerais lui raconter ce qui est arrivé à ma famille et à moi-même, exiger des excuses pour ma mère, ma grand-mère et mon grand-père, pour la façon dont ils nous ont traités, dont ils nous ont blessés, nous qui étions des enfants de Dieu, a partagé M. Yakeleya. En septembre dernier, la Conférence des évêques catholiques du Canada a présenté des excuses officielles aux victimes des pensionnats. Le chef Yakeleya qualifie aujourd'hui ces excuses de discutables.
We still got work to do with them. They are justifying, rationalizing, and even to a point of analyzing and trying to escape the full force of their role in administering the residential schools.
Les évêques canadiens ont démontré que nous avons encore du travail à faire avec eux, a-t-il indiqué. Ils se justifient et rationalisent la situation. Ils essaient d'échapper à toute la force du rôle qu'ils ont joué dans l'administration de ces pensionnats, souligne-t-il. Le chef évoque les compensations de plusieurs millions de dollars qui resteraient encore à verser aux survivants. À ses yeux, les évêques canadiens s'affairent à trouver des vides juridiques afin de se dédouaner des gestes qu'ils ont commis et de fuir leurs responsabilités.
We're dealing with the diocese is a corporation, a business, and this is not something that would satisfy the former survivors, such as myself and maybe other survivors.
Nous négocions avec le diocèse comme avec une corporation ou une entreprise, indique Norman Yakeleya. Les survivants ne sont pas satisfaits. On ne peut pas laisser aller cette situation.
We got to work with them, but we also got to let them know the truth and the honesty of survivors. Can't get away that easy.
Nous devons aujourd'hui travailler avec les évêques, poursuit M. Yakeleya, mais nous devrons également être honnêtes et dire la vérité. Ils ne pourront pas s'en sortir aussi facilement.
When I left residential school, when I finished in the Newick, I left with a thought in my mind from the abuses that I suffered that I said to myself, they got away with it. And I'm not going to tell anybody what happened to me. But in my whole heart, I said, they got away with it. That's the thinking I left when I was finished school. Today is different. Today, we know that the only thing we got is our truth and our faith.
En sortant du pensionnat d'Inuvik, a partagé M. Yakeleya, quand j'ai fini l'école, en pensant aux abus que j'ai subis, une pensée me restait en tête. Ils s'en sont tirés. Je ne dirai à personne ce qui m'est arrivé au pensionnat, mais de tout mon cœur, je me suis dit, ils s'en sont tirés. Aujourd'hui, c'est différent. Tout ce qui leur reste, c'est la vérité. Les amendes pour non-respect de la loi sur la santé publique sont-elles efficaces pour minimiser la propagation de la COVID-19? Difficile à dire pour l'instant, mais alors que les territoires du Nord-Ouest vivent, pour ainsi dire, leur première vague, le gouvernement envisage de frapper davantage. Du début de la pandémie jusqu'au 1er octobre, 65 amendes pour non-respect de la loi sur la santé publique ont été distribuées au TNO. Marie Soleil des Hôtels s'est penchée sur la question. D'abord, Marie Soleil, vous avez cherché à savoir quand chaque contravention a été remise.
Oui, on a contacté la Cour territoriale qui est incapable de fournir la liste des contraventions avec la date. Le secrétariat de coordination pour la COVID-19 n'avait pas les dates pour toutes les contraventions, pour les 65. Ils avaient les dates pour 53 d'entre elles, puis on a trouvé la date de la première contravention. Donc, on avait les chiffres pour 54 des 65 contraventions. Bref, toujours est-il qu'on a mis ça dans un graphique, on a regardé quand les contraventions ont été données à travers le temps, et le tiers ont été donnés au cours des 7 premiers mois de la pandémie, dont et toutes ces contraventions-là ont été données alors dans une période de 6 mois où il n'y avait aucun cas actif de COVID-19 au territoire du Nord-Ouest. J'ai discuté du tout avec Benoît Barbeau, un professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM et expert en virologie. Il disait que les contraventions qui ont été données au début de la pandémie suivaient la tendance générale à travers le Canada, que les autorités ont débuté en sévissant, en étant plus agressives avec les contraventions pour s'assurer que les gens comprennent les mesures, la nécessité de les imposer et de prévenir les contrevenants. Il disait aussi que à quel point est-ce que les contraventions ont un effet bénéfique ou non sur le nombre de cas, ça c'est difficile à dire, puis elles ne précèdent pas nécessairement une éclosion, évidemment. Donc, il n'y a pas de corrélation à voir ou à chercher entre le nombre de cas actifs et des contraventions qui sont nécessairement remises. Cependant, le professeur associé à la faculté de droit de l'Université de Calgary, Sean Flocker, qui lui aussi disait que les contraventions sont données à titre préventif. Il prenait note que dans certains endroits à travers le Canada, que les contraventions changeaient selon le nombre de cas actifs ou les règles changeaient selon le nombre de cas actifs, tandis qu'au TNO, les contraventions sont données, mais évidemment, il y a des arrêtés de santé publique qui varient selon les dates et les éclosions et ce qui se passe au TNO.
Et là, il y en a une éclosion et majeure là, en ce moment, là, depuis le mois d'août, on frôle les 1500 cas d'accumulés là, depuis le début de la pandémie. Est-ce qu'on observe aussi une application plus sévère des règles auprès de la population là, depuis le début de cette éclosion?
Oui, quand on regardait les dates, là, on pouvait remarquer une certaine reprise des contraventions en août 2021, ce qui coïncide avec l'éclosion actuelle au territoire du Nord-Ouest. L'expert en virologie, Benoît Barbeau, est d'avis que ces contraventions comme plus actives active vise à minimiser la propagation du variant Delta au territoire du Nord-Ouest, qui, on le sait bien, est plus contagieux. Et on peut noter aussi que lors du point de presse du 6 octobre et à l'approche de l'action de grâce, l'administratrice en chef de la santé publique des TNO, la Dr Camille Candola, avait d'ailleurs annoncé que son gouvernement envisageait d'augmenter sa capacité à appliquer la loi dans les collectivités où il y a des restrictions, que ce soit à Yellowknife ou à Bécancour, où les cas de COVID-19, on le sait, continuent de croître. Et est-ce que les cas augmentent parce que les Ténois ne respectent pas les règles, par exemple en se rassemblant entre amis dans une maison sans que tout le monde y habite? L'administratrice en chef, le 6 octobre, a répondu que selon elle, la hausse est d'abord due à la propagation du virus à l'intérieur du même ménage et aussi chez le personnel de soutien. Comme quoi qu'il y a une personne qui attrape la COVID-19 à quelque part et que finalement c'est tous les membres de sa famille qui finissent avec le virus.
Et cette méthode-là de faire appliquer la loi, de distribuer des contraventions, Marie-Soleil, est-ce que ça semble fonctionner?
De l'avis de l'avocat Sean Flocker, la bataille est perdue d'avance pour les autorités qui tentent d'influencer le comportement de tout le monde au point de s'appuyer sur la coercition pour obtenir la conformité, parce que les autorités ne peuvent tout simplement pas s'attaquer à chaque cas. Donc, plusieurs personnes vont juger que le risque d'être pris en délit est assez faible et vont décider de ne pas obtempérer. Et selon le professeur de droit, des mesures plus concrètes comme un magasin qui va empêcher les clients d'entrer parce qu'ils n'ont pas de masque va produire un effet plus concret, un effet plus immédiat que de juste savoir que le masque est obligatoire. Et évidemment, cette consigne-là vient quand même d'en haut, sauf que le fait de ne pas pouvoir entrer dans le magasin a un effet plus concret.
Et donc, justement, en parlant de mesures, on en parle tout de suite après avec notre collègue Thomas Chabot. Marie-Soleil des Hôtels, merci beaucoup.
Je vous en prie.
L'arrêté de santé publique pour Yellowknife, Dillon et Delta ainsi que celui de Bécancour sont prolongés jusqu'au 22 octobre. Un nouvel arrêté touchant l'entièreté du territoire devrait aussi entrer en vigueur la semaine prochaine. Prochainement, certains commerces pourraient également exiger de leurs clients qu'ils soient vaccinés, preuve à l'appui, avant d'entrer. Thomas Chabot a assisté à la dernière conférence de presse de la santé publique et est avec nous pour nous donner les détails. D'abord, Thomas, en quoi consiste ce nouvel arrêté là, qui nous attend la semaine prochaine?
Bonjour Thomas. Eh bien oui, le nouvel arrêté remplacera dans le fond les arrêtés temporaires qui sont actuellement en place au territoire du Nord-Ouest. On parle ici bien de l'arrêté qui touche Yellowknife, Dillon, Delta ainsi que celui de Bécancour. Alors, les nouvelles restrictions de rassemblement seront appliquées à l'ensemble du territoire cette fois-ci, alors pas seulement dans la région de la capitale ténoise. Alors, voici les restrictions de base qui, pour l'instant, ont été annoncées par la santé publique. Il y aura désormais un maximum de 25 personnes à l'intérieur et un maximum de 50 personnes à l'extérieur. Mm-hmm. Cependant, ce qui change véritablement avec l'instauration de ce nouvel arrêté la semaine prochaine, c'est la possibilité pour les entreprises ainsi que les organisations de demander une preuve de vaccination afin d'augmenter leur limite de capacité. Il est précisé cependant que les enfants de moins de 12 ans qui ne peuvent pas être vaccinés pour l'instant ainsi que les résidents ne pouvant recevoir le vaccin sont exemptés de cette demande. À ce sujet, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Julie Green, a dit que la possibilité pour un commerce d'accepter ou non un client vacciné, eh bien, ça revient au propriétaire du commerce. Autant les gens peuvent prendre la décision d'être vaccinés ou non, autant les commerces peuvent prendre la décision d'accepter des gens non vaccinés ou non. Alors, ce changement, il arrive en même temps que la nouvelle version du formulaire de demande de preuve de vaccination en ligne du gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Les résidents ténois peuvent désormais obtenir une preuve de leur vaccination ainsi qu'un code QR qui est scannable directement sur le site de la réponse du GTNO à la COVID-19.
Alors là, Thomas, les commerces ne seront pas obligés d'exiger de leurs clients qu'ils soient vaccinés avant d'entrer, mais les commerces qu'ils feront auront quand même certains avantages.
Et oui, il y a quelques incitatifs. Alors pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que la limite pour les rassemblements intérieurs pourrait être augmentée jusqu'à 100 personnes et pour les rassemblements extérieurs jusqu'à 200 personnes. Et ça, c'est pour les commerces qui demandent une preuve de vaccination à l'entrée. Mm-hmm. L'administratrice en chef de la santé publique des TNO, Dr. Kenny Candola, fournira davantage d'informations avant la date prévue d'entrée en vigueur le 22 octobre, soit la semaine prochaine. Jusqu'à présent, la santé publique s'attarde à la clientèle des commerces et ne pense pas demander aux employés qui travaillent dans ces 10 commerces une preuve vaccinale pour pouvoir entrer au travail. La décision, eh bien, a été prise afin de limiter les effets de la transmission communautaire qui s'opère présentement dans la région de la capitale ténoise, donc Yellowknife, Dillon, Detta, Bechokon, on le rappelle, en date du 13 octobre à 9h, donc hier, il y avait 356 cas quand même d'actifs au territoire du Nord-Ouest, dont 204 cas à Yellowknife, 120 à Bechokon, 12 à River, 6 à Fort Smith et 6 à Fort Simpson. C'est donc majoritairement, on le rappelle et on le redit, majoritairement Yellowknife et les environs. La santé publique a aussi confirmé que la grande région de Yellowknife a dépassé le sommet des nouveaux cas et que la région se situe présentement dans la courbe descendante.
Donc, auditrices et auditeurs, pour ceux et celles qui ont fait le choix d'être vaccinés au territoire du Nord-Ouest, il serait temps d'aller chercher les documents qui prouvent que vous êtes vaccinés. Thomas Chabot, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Les résidents des territoires du Nord-Ouest peuvent dès maintenant remplir un formulaire en ligne afin de télécharger leur preuve de vaccination électronique. Il s'agit d'un nouveau format qui a été normalisé afin d'en faciliter l'utilisation dans tout le Canada. Comme l'indique la ministre de la Santé et des Services sociaux, Julie Green, dans un communiqué de presse, le GTNO a travaillé de concert avec le gouvernement du Canada et avec ses homologues provinciaux et territoriaux pour mettre au point cette preuve de vaccination, dont le format est similaire à celle du reste du Canada. Pour l'instant, la demande et l'obtention du document ne peuvent se faire qu'en ligne. Le gouvernement demande aux résidents de ne pas se rendre pour l'instant dans leur centre de santé local pour obtenir un exemplaire de leur preuve de vaccination au nouveau format. Cette option sera toutefois offerte au courant du mois d'octobre. Cette option devrait toutefois être offerte d'ici la fin du mois d'octobre. À l'heure actuelle, seuls les résidents qui ont une carte d'assurance maladie des territoires du Nord-Ouest peuvent obtenir ce nouveau format de preuve de vaccination électronique. Les résidents qui n'ont pas de numéro de carte à inscrire dans le formulaire en ligne ne peuvent donc pas se procurer le document pour l'instant. Des solutions pourraient toutefois être offertes à ces personnes au courant des prochains jours. Selon des informations transmises par courriel par le gestionnaire des communications David McGuire, le gouvernement travaille à élaborer un processus d'obtention du document qui devrait aider les personnes qui n'ont pas de carte d'assurance maladie des TNO, mais qui ont été vaccinées au TNO. Dans l'immédiat, un résident peut également demander à obtenir une copie de son dossier médical. C'est un document qui constitue une preuve de vaccination. Média Ténois n'a toutefois pas pu obtenir la garantie que ce document permettra d'entrer à bord d'un avion, d'un train ou d'un navire. À partir du 30 novembre au Canada, toute personne souhaitant voyager à bord d'un avion, d'un train, de Via Rail ou de Rocky Mountaineer ou d'un bateau de croisière devra être vaccinée. Une preuve sera également exigée pour traverser la frontière terrestre vers les États-Unis, qui doit rouvrir en novembre. Le montant à emprunter au gouvernement fédéral pour la construction du nouveau centre aquatique de Yellowknife pourrait atteindre les 10 millions de dollars. Le montant exact sera dévoilé prochainement au conseil municipal, suite à quoi ce sera aux résidents de décider, par référendum, s'ils acceptent la dette.
The time to build is now.
C'est le temps de construire, a indiqué l'administratrice principale Sheila Bassikelet au conseil municipal ce mardi 12 octobre.
Actually, the time to build was probably 5 to 10 years ago, but the second best time to build is now. We saw in the design report that construction costs are increasing at an exponential rate. And this was pre-COVID.
En fait, c'était le temps de construire il y a 5 ou 10 ans, a-t-elle ajouté, expliquant que les coûts de construction ne cessent d'augmenter avec le temps. La piscine Root Inch Memorial en serait à ses dernières années de vie. Les conseillers municipaux se sont somme toute montrés favorables au projet, estimé à 68 millions, et conséquemment à l'emprunt d'une partie de ce montant au gouvernement fédéral. Si le bâtiment est encore en bon état, les installations, elles, prennent de l'âge, selon l'administration, ce qui augmenterait les coûts d'opération et d'entretien. De plus, le centre ne suffirait plus à répondre à la demande, alors que plusieurs enfants seraient présentement sur la liste d'attente pour accéder aux cours de natation. Le référendum, qui se tiendra le 23 novembre, se déroulera par la poste, un nouveau mode de scrutin qui a été adopté par le Conseil cet automne. Les bulletins de vote seront ainsi envoyés aux résidents dès que le Conseil aura approuvé la somme à emprunter au gouvernement fédéral. Les électeurs disposeront alors de 2 à 3 semaines pour remplir et retourner leur bulletin de vote par la poste. Ils auront également l'option de récupérer un bulletin de vote et de le déposer en personne à l'un des 2 centres d'assistance qui seront mis en place. Suivant un résultat favorable au référendum, le projet devra être adopté en seconde lecture en décembre par le conseil municipal, puis être approuvé par le ministère des Affaires municipales et communautaires. Le contrat devra être octroyé d'ici le 6 février, dernière étape avant de mettre le chantier en branle. Le nouveau centre aquatique de Yellowknife pourrait ainsi ouvrir ses portes en février 2024. Les démarches entourant ce projet de centre aquatique ont été démarrées en 2016. Le gouvernement fédéral a jusqu'ici contribué à hauteur de 12,9 millions à son élaboration. Les consultations publiques ont démontré un intérêt des résidents pour la construction de ce centre. Les résultats d'un sondage complété en septembre 2020 par plus de 450 résidents démontrent que seulement 11 % des répondants ne sont pas en faveur de la construction d'un nouveau centre aquatique à Yellowknife. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Surtout, revenez-nous la semaine prochaine. Je vous retrouve avec mes collaborateurs pour vos nouvelles des territoires du Nord-Ouest et du Grand Nord canadien. Je suis Thomas Étier, journaliste de l'Initiative du journalisme local. Pour Média Ténois, je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'info. Une émission de l'Initiative de journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.